Saint-Esprit. Amen. L'évangile de ce dimanche nous fait revenir en arrière. Le dimanche dernier, on évoquait donc Saint Thomas et son incrédulité, qui donc est la présence du Christ parmi ses disciples le soir du premier jour, donc le soir du dimanche de Pâques, et puis ensuite 8 jours après. Et là, aujourd'hui, dans l'Évangile, on est de nouveau le Vendredi Saint, le moment où le Christ est mort sur la croix et où Joseph d'Arimathie demande à Pilate la permission de le descendre, de l'enlever de la croix et de l'enterrer. Donc on revient en arrière, complètement, si vous voulez. Et d'abord, si ce retour en arrière est fait aujourd'hui, c'est pour nous rappeler la différence entre deux catégories de personnes. D'une part, les disciples, qui ont pourtant entendu plusieurs fois l'annonce de la passion et de la mort et de la résurrection du Christ, et qui pourtant sont cachés, dissimulés, ils ont peur, ils sont verrouillés, cadenassés dans une salle du cénacle probablement. Donc la peur de ces hommes qui se dissimulent. Et puis, donc, pas en face d'eux, mais si en face d'eux, au contraire d'eux, il y a Joseph d'Arimathie qui ose demander à Pilate le droit de descendre le Christ, le corps du Christ de la croix. Et puis les femmes qui sont là, Marie de Magdala, Marie, la mère de Joseph, Marie, la mère de Jacques et Salomé, qui sont là et qui sont assises et qui regardent donc l'endroit où le corps du Christ est mis par Joseph d'Arimathie et par Nicodème. Alors, on pourrait dire qu'au fond, il y a une opposition entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est vrai que les femmes représentent là une espèce de veille. Voyez, alors que le dimanche matin, les disciples, les hommes, sont encore tous enfermés par la peur, les femmes, elles sortent pour oindre de parfum, de myrrhe, le corps de Jésus endormi dans la mort. Elles osent sortir, elles osent aller donc retrouver ce corps mort, enfin qui leur semble mort, parce que je pense que les femmes dans l'Évangile n'ont pas reçu l'annonce de la résurrection. C'est les apôtres seulement, si vous voulez. Et donc les femmes, elles sont dans la tristesse, dans le deuil, et elles montrent par ce mouvement qu'elles font pour aller vers le tombeau, elles montrent leur fidélité, elles montrent leur amour, elles montrent leur affection, elles montrent, si vous voulez, ce qui en nous est important pour aimer, pour être dans l'amour, justement, de celui qu'elle pense mort dans ce cas-là. Donc, les hommes un peu égoïstes, lâches, peureux, et les femmes, donc, osant être d'abord au pied de la croix. Elles sont restées au pied de la croix, ensuite devant le tombeau, jusqu'au début du Shabbat, et ensuite, donc, elles vont vers le tombeau. Le courage, la douceur, l'accueil, c'est les qualités féminines que l'on donne généralement d'une façon un petit peu simpliste aux femmes. En fait, les femmes, elles peuvent être masculines aussi, naturellement. Vous savez, le psychanalyste Carl Gustav Jung disait que tout être humain a en lui un pôle masculin et un pôle féminin. Tout être humain. Quand une femme est dans le raisonnement, dans la volonté de puissance, elle est dans son pôle masculin, là. Et quand un homme, au contraire, est plein de douceur, d'écoute, d'accueil, d'attention, il est dans son pôle féminin. Et le féminin, donc, c'est ce qui est toujours l'ouverture, l'accueil, le fait d'être fidèle, si vous voulez, à l'amour, à l'affection que l'on a pour l'autre ou pour les autres. Donc, c'est deux catégories de personnes qui sont là. Et les femmes, quand elles arrivent au tombeau, qu'est-ce qui se passe? Elles sont effrayées. Pourquoi? Parce qu'elles voient donc l'ange assis, un homme. L'Évangile dit un homme vêtu d'une robe blanche. L'évangile ne dit pas que c'est un ange. Un homme vêtu d'une robe blanche. Nous savons que c'est un ange, donc bien sûr, naturellement. Mais elles ne le savent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont effrayées, car elles n'ont pas entendu parler de la résurrection. Alors que Pierre et Jean, lorsque c'est dans l'évangile de Saint Jean, ils savent, ils sont déjà informés de ce qu'ils vont trouver là. Elles y vont, et du coup, voyant cet ange assis à droite dans le tombeau, elles sont effrayées. Et l'évangile de Saint-Marc qu'on a lu aujourd'hui finit par le fait qu'elles tremblent de peur. Elles tremblent de peur, et que leur dit l'ange? Il leur dit ce que le Christ nous dit à tous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous voyez, je crois qu'on est tous à vivre un monde difficile, à vivre dans les difficultés de nos péchés, de nos passions, de tout ce qui nous trouble, qui nous anime aussi, de tout ce que nous craignons dans la situation du monde actuel. Et l'ange dit, n'ayez pas peur. Et il nous le dit à nous aussi, n'ayez pas peur, ayez confiance dans la parole du Christ qui est présent et qui reviendra donc à la fin des temps. Et la fin des temps est peut-être proche, mais n'ayons pas peur de ce qui se passe. Le Christ a vaincu la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. N'ayons pas peur. Donc ce que dit l'ange aux femmes, il le dit à nous aussi. Et il dit, vous cherchez le crucifié, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. Il vous précède en Galilée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La Galilée, pour les apôtres et pour ces femmes, c'est leur paix, c'est l'endroit où elles vivaient et où elles vont continuer à vivre normalement. C'est leur lieu de travail, pour les apôtres. C'était leur lieu de travail, là où est leur famille. C'est leur lieu de vie habituel. Et donc, dire que le Christ les attend en Galilée, ça veut dire qu'il les attend et qu'il nous attend dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Pas uniquement dans les grandes fêtes, dans les grandes liturgies, dans les grandes célébrations, mais dans notre vie quotidienne. C'est là qu'on va le trouver. Dans notre Galilée à nous. Notre Galilée personnelle qui est notre vie quotidienne, avec tous nos soucis, nos ennuis, nos joies, nos tristesses, nos espoirs, nos illusions, nos rêves. Et c'est dans cette Galilée intérieure qu'on va trouver le Christ, justement, tel qu'il est, le Christ ressuscité. Et les femmes, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, elles sortent du sépulcre sans rien dire, et elles s'en vont car elles étaient saisies d'effroi, dit le texte que nous avons lu. En fait, dans l'Évangile, il dit que le dernier vers de ce passage dit « Elles avaient peur et elles étaient stupéfaites. » Dromos, la peur, et extasis. Extasis est le mot grec. Elles sont extasiées, si vous voulez, au sens littéral du terme. Ce n'est pas qu'elles sont stupéfaites, c'est plus que ça. Elles sont extasiées. Elles sont sorties de leur... Elles sont sorties par tout cela de leur état habituel, extasis. Alors on traduit stupéfaite, effectivement. On dit qu'elles sont hors d'elles-mêmes. Et au fond, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faudrait que nous vivions la résurrection et le mystère de Dieu, ce mystère qui est permanent dans la stupéfaction et dans l'extase à l'intérieur de nous-mêmes. L'extase, c'est être au-delà de tout raisonnement, au-delà de toute réflexion, au-delà de toutes les certitudes, au-delà de ce qui nous rassure. C'est être au-delà, devant le mystère de Dieu, le mystère total de Dieu. Vous savez, quand on parle de Dieu, on dit qu'il est bon, on dit qu'il est beau, on dit qu'il est miséricordieux, mais tout ça, c'est des mots qui ne conviennent pas à Dieu. Et les mystiques disent qu'on ne peut rien dire sur Dieu, on ne peut rien dire sauf « ah, ah ». L'exclamation « ah ». Et on ne dit rien, on ne peut pas dire autre chose. Et certains mystiques vont dire « mais Dieu, c'est le néant ». C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas comprendre. Le néant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'il est au-delà de l'être, au-delà de toute forme d'existence, et d'être, au-delà de tous les mots que l'on peut dire sur lui. C'est pourquoi Saint Grégoire de Nazianze, qu'on appelle Grégoire le théologien, disait que tous les noms conviennent à Dieu, en même temps aucun nom ne lui convient, aucun nom. Ce n'est que Dieu est bon, Mais il n'est pas bon, Dieu. Enfin, il n'est pas bon au sens où nous l'entendons, où nous le sommes, nous, où nous essayons de l'être. Dieu n'est pas bon, si vous voulez. Il est bien au-delà de tout ça. Quand on dit que Dieu est lumière, mais ça n'a pas de sens non plus. Voilà. Donc, il faudrait comprendre, si vous voulez, qu'on est tous dans le mystère de Dieu. Et que ce mystère de Dieu, pour nous, il est dans la résurrection. Nous le saisissons, nous comprenons ce mystère dans la résurrection du Christ. Car la résurrection, on ne peut pas l'expliquer non plus. Et tout ce que l'on peut dire sur la résurrection est probablement insuffisant et peut-être même, en un sens, illusoire. La résurrection nous dépasse infiniment. La résurrection, c'est le centre, c'est le moment, c'est le lieu où se rejoignent le temps et l'éternité. C'est le moment où se rejoignent Dieu et l'homme. Et ça, c'est au-delà de toute explication. Les femmes qui sont dans l'extase, extasis, stupéfaites. Et nous devrions être stupéfaits, nous aussi, extasiés, justement, par ce mystère de Dieu. Alors que nous réduisons la plupart du temps Dieu à des choses que nous connaissons. Nous projetons sur Dieu nos images personnelles, nos images anthropologiques ou anthropiques, je ne sais pas ce que vous allez dire, anthropologiques plutôt, je pense. On projette cela sur Dieu. Mais Dieu est au-delà de tout. Et la prière de Saint Grégoire de Nazianze dont je vous parlais commence par « Ô toi, l'au-delà de tout, quel nom peut te convenir ?» Aucun nom ne peut te convenir. En même temps que tous les noms te conviennent. Dieu est partout et en tout. Voilà donc ces femmes. Et je terminerai, si vous voulez, en disant qu'elles représentent pour nous justement cette opposition entre la lâcheté, la peur, l'angoisse, l'enfermement, le repliement sur nous. Je suis un pécheur, je n'arrive pas à en sortir, mon péché est toujours présent devant moi, et je m'enferme dans ces pensées-là. Donc l'enfermement, et puis le fait que eh bien, l'amour est plus fort que tout ça, l'amour est plus grand que tout ça, et on le sait, Dieu est amour. Et le père Schmemann, de bienheureuse mémoire, dit dans son journal, il dit, parlant des femmes Mirofort, justement, c'est la femme qui a sauvé et qui sauve la dimension humaine de l'homme. C'est la femme qui a sauvé et qui sauve la dimension humaine de l'homme. En effet, s'il n'y avait pas eu ces femmes ce soir, ce dimanche matin, vraiment, il aurait manqué quelque chose d'essentiel, si vous voulez. C'est-à-dire la manifestation de l'amour, de la tendresse, de cette ouverture du cœur. Les femmes Mirofort, c'est le cœur ouvert à la présence de Dieu, ouvert à l'amour de Dieu. Et il faut demander que notre cœur s'ouvre à cet amour de Dieu, que notre cœur s'ouvre pour recevoir l'amour de Dieu. Et les pères de l'Église, certains disent aussi que nous avons à devenir mère, donc à être dans le féminin en nous, à devenir mère pour que le Christ naisse en nous, justement. Mais ça, on en reparlera à Noël. Et le Christ n'est plus à Bethléem, c'est fini, c'est fait une fois pour toutes. C'est dans nos cœurs qu'il naît maintenant. Mais pour qu'il naisse dans nos cœurs, il faut que nous redevenions vierges et mères. Notre vocation, c'est de redevenir spirituellement, ou de devenir plutôt spirituellement vierge et mère, donc féminin dans notre cœur. Donc ces femmes Mirofort, nous pouvons et nous devons nous identifier à elles, car devant Dieu, nous sommes tous féminins. Hommes ou femmes, biologiques, peu importe, on est tous féminins devant Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui féconde notre cœur pour que le Christ naisse en nous. Alors, demandons donc la grâce que, comme ces femmes Mirofort, notre cœur s'ouvre donc à l'amour de Dieu et que nous soyons capables de nous émerveiller, d'être extasiés justement devant le mystère de Dieu, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.